Europe 1, il est midi.
Europe Midi, Romain Desarbres.
Bonjour à tous et bienvenue dans Europe Midi, votre grand rendez-vous d'information de la mi-journée sur Europe 1. À la une, cette information Europe 1 de la matinée. 6 personnes, 6 femmes faisant partie de l'entourage de Mohamed Merah ont été arrêtées ce matin. William Molinier avec nous dès le début de ce journal. Éric Dupond-Moretti, qui devrait être jugé par la Cour de justice de la République, ne compte pas démissionner. Non, vous l'entendrez dans un instant dans Europe Midi. Le vent tourne pour Sandrine Rousseau. Elle est accusée par Julien Bayou d'être allée trop loin, nous dira Alexandre Chauveau. Et puis l'indignation au sujet des insultes proférées par la députée France Insoumise, Danielle Obono. Sur tous ces sujets politiques, on reviendra avec Louis Dragnel. Le prix des carburants qui repart à la hausse, vous l'avez peut-être constaté. Est-ce que c'est un phénomène qui va durer? On sera avec Francis Perrin, spécialiste des problèmes énergétiques. Le maire de Rodez nous dira pourquoi il refuse les écrans géants dans sa ville pour diffuser les matchs du Mondial de foot du Qatar. Et puis je vous le disais il y a un instant, c'est tombé il y a quelques minutes, le Nobel de physique a été attribué au Français Alain Aspect ainsi qu'à l'Américain John Clauser et à l'Autrichien Anton Zellinger pour leur travaux sur la mécanique quantique. Allez, la tendance météo avec vous Anissa Haddadi. Bonjour Anissa.
Bonjour Romain, bonjour à tous.
Nouvelle belle journée aujourd'hui. Hein.
Oui, ça y est. Presque toutes les grisailles matinales sont dissipées, le soleil prend le relais, il brille sur quasiment toute la France et fait grimper le thermomètre de quelques degrés.
Merci Anissa et à tout à l'heure pour la météo complète.
Europe 1.
C'est donc une information Europe 1 qu'on vous a révélée ce matin. La SDAT, la sous-direction antiterroriste de la direction centrale de la police judiciaire, a mené ce mardi matin un vaste coup de filet à Toulouse. Le bilan, l'interpellation de 6 femmes faisant partie de l'entourage du terroriste Mohamed Merah, terroriste islamiste franco-algérien qui avait assassiné 7 personnes, dont 3 enfants juifs en l'occurrence, ainsi qu'un professeur dans une école juive et 3 militaires. C'était en 2012. William Molinier avec nous, service police-justice de CNews. C'est vous qui révélez cette information de service police-justice d'Europe 1, évidemment. William Molinier, que sait-on de ces arrestations?
Eh bien, ces interpellations ont eu lieu ce matin à Toulouse et à Albi. Coup de filet antiterroriste dans les milieux islamistes, notamment de la cité toulousaine du Mirail. Selon nos informations, 5 personnes ont été interpellées. Une autre s'est présentée dans la matinée au commissariat. Ce sont des profils qualifiés de sensibles, des gros poissons. Ils appartiennent à ce qu'on a appelé la galaxie Merah, des proches faisant partie de l'entourage de la famille. Compte tenu de la dangerosité de certains profils, le RAID a prêté main forte aux enquêteurs de la sous-direction antiterroriste. Ce coup de filet a visé des femmes. Certaines sont soupçonnées d'avoir séjourné en Syrie entre 2013 et 2014. Selon nos informations, elles ont déjà fait dans les années passées l'objet de garde à vue pour des suspicions de séjour syrien, ce qu'elles ont à l'époque contesté. Or, depuis, des éléments recueillis au cours des investigations auraient démontré le contraire. Lors des surveillances réalisées par les enquêteurs, ces femmes se seraient montrées très précautionneuses vis-à-vis d'éventuelles écoutes et filatures policières. 6 suspectes donc qui ont été placées en garde à vue qui peuvent durer jusqu'à 96 heures.
William Molinier, merci William. Vous restez avec nous, vous aurez d'autres informations à nous donner. On vous retrouvera aux alentours de 12h40, 12h45. Merci beaucoup William et à tout à l'heure. Au lendemain de la décision de la Cour de justice de la République d'ordonner un procès contre Éric Dupond-Moretti pour prise illégale d'intérêt, le garde des Sceaux s'est exprimé publiquement ce matin. Il est accusé d'avoir profité de son statut de ministre pour régler ses comptes avec les magistrats qui étaient en conflit avec lui lorsqu'il était avocat. En tout cas, le ministre ne compte pas démissionner. Écoutez.
Le renvoi n'était pas une surprise pour moi. Je tiens ma légitimité du président de la République et de la première ministre. Je veux encore vous dire que jamais cette mise en examen ou ce renvoi n'ont entravé mon travail. Qu'il s'agisse du budget, qu'il s'agisse des 27 textes que j'ai portés, qu'il s'agisse de la mise en place des états généraux à venir. J'étais à Cayenne avant-hier, je suis ici ce matin. Voilà, mon travail, je le fais. Pour le reste, soyez patients. Un pourvoi en cassation a été formé. Je ferai valoir un certain nombre d'éléments de droit. Et s'il fallait que je sois jugé, Je dirai alors ce que j'ai à dire. Je suis un justiciable comme un autre. J'ai un certain nombre de droits et vous pourrez alors compter sur moi pour me défendre et pour que j'assure complètement les droits et la défense qui sont les miens.
Monsieur le ministre, est-ce que vous allez démissionner ?
Ça n'est pas à l'ordre du jour.
Voilà Éric Dupond-Moretti qui ne compte pas démissionner, vous venez de l'entendre. Lui avait démissionné de la direction d'Europe Écologie Les Verts et de la coprésidence du groupe écologiste à l'Assemblée nationale. Julien Bayou fera son retour cet après-midi dans l'hémicycle. Il y a deux semaines, sur le plateau de C'est à vous, sur France 5, Sandrine Rousseau l'avait accusé de violence psychologique sur son ex-compagne. Bonjour Alexandre Chauveau.
Bonjour Romain, bonjour à tous.
Julien Bayou s'est défendu ce matin dans Le Monde. Il estime avoir affaire à un dévoiement du féminisme.
Oui, et le député n'entend pas quitter son siège à l'Assemblée. Il n'y a pas d'affaire Bayou, clame l'écologiste, qui se défend de toute violence envers son ex-compagne. L'élu estime vivre un procès kafkaïen et charge directement Sandrine Rousseau. Elle est allée trop loin et tout le monde le mesure, dit-il, dénonçant le macartisme de celle qui avait déclenché l'affaire il y a deux semaines. Julien Bayou rappelle néanmoins son attachement au féminisme et à l'égalité et parle du mouvement MeToo comme d'une révolution nécessaire. Le député de Paris revient également sur le fonctionnement de la cellule d'écoute interne à Europe Écologie Les Verts et dont il avait lui-même validé le fonctionnement en février dernier. L'élu justifie son existence par la défaillance et la lenteur de la justice, mais regrette qu'elle se substitue au droit. Et puis, politiquement, enfin, Julien Bayou appelle à une clarification pour le congrès d'Europe Écologie Les Verts en décembre. Nous devons dire quelle écologie nous voulons, excommunier ou rassembler, déclare-t-il dans un dernier tacle à Sandrine Rousseau.
Merci beaucoup, Alexandre Chauveau. Et on va y revenir hein, sur toutes ces affaires qui secouent Europe Écologie Les Verts et qui secoue également le gouvernement avec Louis Dragnel, et dans un instant, chef du service politique d'Europe 1. Bientôt la carte vitale sur notre smartphone. Déjà en cours dans les départements du Rhône et des Alpes-Maritimes, l'expérimentation de la carte vitale dématérialisée sur le téléphone va être étendue à d'autres départements. Bonjour Barthélémy Philippe.
Bonjour Romain, bonjour à tous.
Cette expérimentation va être étendue à 6 autres départements d'ici la fin de cette année, hein ?
Oui, absolument. Le Bas-Rhin, la Loire-Atlantique, le Puy-de-Dôme, la Saône-et-Loire, la Sarthe et enfin la Seine-Maritime. Si vous résidez dans l'un de ces 6 départements, vous devriez bientôt pouvoir sortir votre smartphone pour présenter une carte vitale dématérialisée en pharmacie et chez le médecin. Les volontaires devront télécharger une application, photographier leur carte d'identité et filmer leur visage. La e-carte vitale se présentera sous forme de QR code, comme le pass sanitaire. Les pharmaciens et les médecins le scanneront. La fameuse carte verte ne disparaîtra pas, mais elle ne sera plus essentielle. Si l'expérimentation réussit, la carte dématérialisée sera généralisée à toute la France en 2024. Précisons que cette e-carte vitale n'a rien à voir avec le projet de carte vitale biométrique, c'est-à-dire avec les empreintes digitales de l'assuré. Ce chantier-là prend beaucoup plus de temps et d'ailleurs, Bercy doute encore du rapport avantage-coût.
Barthélémy Philippe, merci beaucoup Barthélémy. Des reniflements intempestifs, des quintes de tout. Au bureau, dans le métro, personne n'y échappe entre le Covid dont la 8e vague a démarré, la grippe dont la saison commence et puis les angines ou rhinopharyngites. Les autorités sanitaires craignent des épidémies. Cet hiver, fin septembre, le taux d'incidence des infections respiratoires avait même doublé en l'espace de 2 semaines. Fin septembre, le taux d'incidence des infections respiratoires avait doublé en l'espace de 2 semaines. Yasmina Katou avec nous. Bonjour Yasmina.
Bonjour à tous.
Ça commence à se voir dans les cabinets médicaux.
Oui, pour l'instant, nous ne sommes pas encore au stade de l'épidémie, mais les virus de l'hiver ont bel et bien fait leur apparition très tôt dans le cabinet du docteur Jérôme Marty. Il est président de l'Union française pour une médecine libre.
On a vu une accélération effectivement des pathologies de la sphère ORL. Ça a commencé doucement là, depuis une quinzaine de jours.
Et donc, certains patients commencent à s'informer pour se protéger contre la grippe.
Les patients âgés notamment commencent à poser les questions depuis 2-3 semaines pour savoir quand est-ce qu'il faut qu'ils se vaccinent, etc. Voilà.
Car les épidémies de grippe, rhinopharyngite et autres virus risquent d'être plus virulentes. La faute à une immunité plus fragile cette année, explique Jean-Paul Stahl, infectiologue.
L'ensemble de la population a été moins fréquemment en contact avec ces virus l'hiver précédent en raison des mesures sanitaires imposées par la Covid. Donc la population est moins immunisée contre ces virus. C'est un facteur de risque, effectivement, pour une épidémie plus importante.
Alors les gestes barrières peuvent limiter l'épidémie de grippe, précise Jean-Paul Stahl. Pour rappel, chaque année, la grippe tue entre 8000 et 10 000 personnes.
Merci beaucoup Yasmina Katou. Et puis cette information donc, que je vous donnais il y a quelques instants, le Nobel de physique a été accordé, attribué au Français Alain Aspect, ainsi qu'à l'Américain John Clauser et à l'Autrichien Anton Zellinger pour leurs travaux sur les mathématiques et plus précisément la mécanique quantique. Voilà, c'est tombé juste avant Europe Midi. Restez bien avec nous. Et dans un instant, on va parler de la Coupe du Monde de football qui va débuter dans moins de 2 mois au Qatar. Certains maires font de la résistance. Ils ne veulent pas diffuser les matchs sur écran géant. Et ce, alors que l'on a appris ce matin que la Fédération française de foot était favorable à un fonds d'indemnisation pour indemniser les ouvriers victimes d'accidents du travail sur les chantiers de la Coupe du Monde au Qatar. On va en parler. On va entendre David Belliard, qui est un élu parisien, et puis on sera dans un instant avec le maire de Rodez, qui ne veut pas entendre parler de ces écrans géants. Restez bien avec nous sur Europe 1. A tout de suite.
Europe Midi. Romain Desarbres.
La Coupe du Monde de football, c'est dans moins de 2 mois au Qatar. Le Qatar, pays accusé de ne pas toujours respecter les droits de l'homme et de se moquer de l'environnement avec ses stades climatisés. Plusieurs grandes villes françaises ont annoncé qu'elles ne diffuseraient aucun match sur écran géant. Après Lille, Strasbourg, Marseille et Bordeaux, Paris prend le train du boycott en marche, on peut dire les choses comme ça, ni écran géant, ni zone de rassemblement. Mesure radicale que justifie ainsi l'adjoint au transport de la ville, David Belliard. Écoutez.
Cette Coupe du Monde, c'est une aberration à la fois sociale. 6500 travailleurs migrants qui sont morts pendant les travaux. Et puis c'est une aberration climatique avec la climatisation des stades, avec des avions qui vont tous les jours amener les spectateurs et spectatrices. C'est un événement qui est un peu hors sol, complètement hors du temps, hors des enjeux et même pire que ça. C'est un événement qui est destructeur et aujourd'hui, pour une ville comme Paris, qui est engagé dans la lutte contre les dérèglements climatiques, qui est engagé dans la lutte pour la justice sociale, eh bien, ce n'est pas possible. Aujourd'hui, on ne peut plus organiser des événements comme celui de la Coupe du Monde du Qatar.
David Belliard, adjoint au transport de la ville de Paris, interrogé par Alexis de La Fontaine. Alors, si certains verront la chose d'un bon œil, car pas d'écran géant, pas de fan zone, ni de festivité, ça fait des économies d'électricité et de personnel de sécurité. Eh bien, qu'en pensent vraiment les Parisiens ? On leur a posé la question.
Bah, je trouve que c'est bien qu'ils le fassent. Je pensais la boycotter aussi. Je pense que cette Coupe du Monde, elle a aucun sens.
On pourrait peut-être croire que c'est juste une position politique, une position d'image, du greenwashing quelque part. Mais du coup, je pense que ça reste quand même une bonne chose. Donc tant mieux.
Je trouve ça très bien ce boycott et je comprends toujours pas comment on peut encore accepter que l'équipe de France aille là-bas.
C'est surtout hypocrite, je trouve. Maintenant qu'on envoie l'équipe de France, bah faut laisser les fans profiter. Ils ont le droit de regarder la compétition.
Bien sûr, on va aller dans des bars, des restaurants, regarder les matchs.
Alors, je vous le disais, il y a quelques instants, la Fédération française de football travaille avec plusieurs autres fédérations à un fonds d'indemnisation des victimes d'accidents du travail sur les chantiers de la Coupe du Monde au Qatar. C'est ce qu'a annoncé ce matin le vice-président délégué de la FFF, Philippe Diallo. On va continuer à parler de ce sujet avec le maire de Rodez dans un instant. Axel May avec nous. Bonjour Axel.
Bonjour.
Dans l'actualité également, les championnats du monde d'apnée qui ont débuté en Turquie avec déjà une médaille d'or pour la France. Et Axel, l'apnée, c'est un sport qui est en plein essor en France.
Oui, alors si le film de Luc Besson, le Grand Bleu, a fait connaître en 1988 la discipline dans l'Hexagone, le boom de la pratique de l'apnée est beaucoup plus récent, souligne Olivia Fricker, monitrice, membre de la Fédération française de plongée.
On est passé en moins de 10 ans d'à peu près, on pense, 1000 licenciés à plus de 20 000, donc vraiment pratiquants au sein de la fédération. Après, les chiffres du ministère sur la pratique loisir, donc des gens pas forcément licenciés, on estime ça à plus de 200 000 pratiquants. Et voilà, donc c'est une discipline qui s'est énormément développée.
Alors, conséquence, les clubs arrivent à saturation. Cette monitrice que vous venez d'entendre m'expliquait que dans son club de l'Est de la France, il y a une soixantaine de pratiquants et plus de 30 personnes ont été refusées à la rentrée. En région parisienne, c'est mission quasi impossible. possible pour s'inscrire, car les entraînements se font majoritairement en piscine et il manque de créneaux horaires disponibles. L'objectif étant bien sûr ensuite de plonger en milieu naturel. Les plus chanceux peuvent tenter la Méditerranée, où des clubs sont installés en bord de mer. Villefranche est même surnommée la Mecque de l'apnée. Alors vous allez me demander, Romain, mais pourquoi un tel succès? Le champion du monde, Arnaud Géral, que j'ai joint hier au téléphone, me répondait, la discipline est dans l'air du temps. Certains s'y retrouvent sur l'écologie, d'autres s'y retrouvent sur le développement personnel, d'autres encore sur la performance pure. Et à propos de performance, oui. Après l'or et le bronze hier, la France a décroché ce matin en Turquie une nouvelle médaille. Guillaume Bourdila vient d'être sacré vice-champion du monde en immersion libre, c'est-à-dire sans palme, oui. 110 mètres et près de 4 minutes sans respirer.
4 minutes sans respirer.
Et 110 mètres au fond, il faut y aller. Hein.
Et 110 mètres au fond, il faut y aller, même en respirant.
Hein, mais... Je confirme.
Mais sans respirer, quel exploit. Merci beaucoup, Axel May. 4 minutes à 110 mètres de profondeur. Voilà, à ne pas reproduire chez soi.
Non, évidemment, surtout pas dans sa baignoire. Ça peut être dangereux.
Ça peut être dangereux. Merci beaucoup, Axel. Victoire indispensable ce soir pour Marseille en Ligue des Champions. Le club phocéen reçoit le Sporting Portugal dans un vélodrome à huis clos. Battu lors des deux premières journées par Tottenham, puis l'Eintracht Francfort, les Marseillais sont derniers de leur groupe. Ils doivent s'imposer pour ne pas compromettre leur chance de se qualifier. Demain, le Paris Saint-Germain se déplacera à Lisbonne pour affronter le Benfica. Des duels qui seront importants dans la course au point pour la cinquième place du classement UEFA entre la France et le Portugal. Voilà, on va en parler ce soir dans l'Europe Sport. Évidemment, Europe Sport, c'est du lundi au dimanche de 20h à 23h sur Europe 1. Allez, la bourse, tout de suite avec vous, Claire Lemaître de boursier.com. Bonjour Claire.
Bonjour Romain.
Alors, quelle est la tendance à la bourse? Ça remonte fort.
Oui, ça va beaucoup mieux. Le CAC 40 qui est dopé par Wall Street, il est en forte hausse de 3,2%, 5981 points. On a Atos qui grimpe de 5,3%. Le patron Bertrand Meunier devrait quitter ses fonctions l'été prochain. Information de BFM Business. Il est la cible d'actionnaires minoritaires très mécontents de la déroute financière du groupe. Et puis M6 chute d'environ 10%. Fin de la spéculation autour d'M6 qui n'est plus à vendre. Son actionnaire Bertelsmann a finalement jeté l'éponge. Ailleurs, en Europe, Londres est en hausse de 1,8%, plus 2,7% pour Francfort. Amsterdam en forte hausse également, plus 2,6%. Et puis à Paris, le CAC 40 bondit ce midi, plus 3,2%, 5981 points.
Claire Lemaître de boursier.com, merci Claire. La météo à présent avec vous, Anissa Haddadi, avec du soleil, avec de la douceur pour ce 4 octobre.
C'est comme la bourse, ça grimpe aussi du côté du thermomètre avec un soleil très généreux cet après-midi. Il reste encore quelques grisailles matinales. C'est vrai que les brouillards étaient très épais ce matin. Eh bien, il en reste dans le nord-est qui s'accroche sur le Pays Basque, dans le Val-de-Saône. Les brouillards ont du mal à se dissiper, mais partout ailleurs, c'est du grand et beau soleil. Le long des côtes de la Manche, entre le Finistère et les Hauts-de-France, en passant par le Cotentin et la Normandie, c'est un petit peu plus gris. Les températures, je vous le disais, avec ce beau soleil, gagne quelques degrés. 18 à Brest, 19 à Lille et Strasbourg, 20 degrés à Paris, 22 à Lyon, 23 à Clermont-Ferrand, 26 pour Bordeaux et jusqu'à 28 degrés cet après-midi à Carcassonne.
Plein soleil sur votre cuisine de rêve. La météo avec Cuisine Référence, la référence des cuisines équipées sur mesure.
Il est midi 19, restez bien avec nous sur Europe 1. Dans Europe Midi, dans un instant, on sera avec Louis Dragnel, chef du service politique d'Europe 1. On va parler de l'affaire Bayou qui est en train de devenir l'affaire Sandrine Rousseau. On va parler des insultes proférées par Daniel Obono et d'Éric Dupond-Moretti. Doit-il démissionner ou pas? Lui dit que non, vous venez de l'entendre. On va en parler avec Louis Dragnel. À tout de suite.